Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de Jacques Cadalène, réalisé le 22 juin 2009.
Paroles de résistants et déportés en Dordogne. Jacques Cadalène, le 22 juin 2009, à Creys. Monsieur Cadalène, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire quand est-ce que vous êtes né et où ?
Jacques Cadalène, je suis d'origine bretonne. Ma famille est venue en 1922 en Dordogne. Et moi, je suis né le 17 août 1923 à Gajac-Rouillac. Ensuite, quand j'avais 4 ans, la famille est venue habiter à Bergerac, à la Baie d'Yves. Et depuis, je suis bergeracois. Jusque 1900, alors à 20 ans, je suis parti au chantier de jeunesse. Et je me suis évadé des chantiers de jeunesse le 4 février 1944. Et je suis rentré dans la clandestinité, comme domestique agricole dans une ferme à Saint-Méard-de-Gurson. Là, le 6 juin, je me suis soulevé avec les autres résistants. J'ai rejoint mon groupe de résistance de Saint-Pierre-d'Ayrault, le corps Franc-Louis. Et mon chef de résistance, le lieutenant Colic, m'a envoyé comme agent de liaison et garde du corps du commandant Pinson au PC du commandant Pinson qui commandait le secteur ouest de Bergerac.
Alors, très bien. J'ai une question sur votre famille. Vous dites que vous êtes arrivé de Bretagne, c'est bien cela ?
Oui, nous sommes arrivés, enfin la famille est arrivée en 1922 et moi je suis né le 17 août 1923. J'étais le 10e enfant de la famille Cadalène.
Et pour quelles raisons vos parents sont...
Oui, notre famille est arrivée donc en 1922 en Dordogne. Il y avait une organisation qui était subventionnée par le gouvernement, puisqu'en Bretagne, il y avait trop d'hommes, et dans le Périgord, il manquait des cultivateurs. Donc beaucoup de Bretons, de familles bretonnes sont venues. Le voyage est payé par le gouvernement, et nous nous sommes installés dans des fermes... du Bergeracois, de tout le Périgord et même en Lot-et-Garonne. Voilà.
Et l'accueil de la population périgourdine a-t-il été bon ?
Attends, je t'ai pas...
Père, vous en a-t-il parlé de cet accueil ?
Mon père est mort, j'avais 9 ans. Mon père est mort, j'avais 9 ans. Non, mais l'accueil a été très bon, hein, puisque je vois, quand je suis né, moi, donc la famille m'avait donné comme parrain le vicomte de la Verrie de Vivant, qui était le fils de notre propriétaire, comme marraine l'épicienne du village. Non, tout était très bien. Tiens, je m'excuse.
Vos parents avaient une ferme, c'est bien cela.
Oui, mes parents avaient une ferme au Grand Caudou à Bergerac, c'est avant le Grand Leclerc à la Cavaille.
Et est-ce que vos parents et votre père en particulier s'est intéressé à l'actualité internationale des années 30 ? Est-ce qu'on parlait ce qui se passait ?
Non, mon père est mort, j'avais 9 ans, donc les souvenirs sont vraiment vagues. Surtout, il avait été malade 2 ans avant, alors on ne parlait pas de ça.
Il a fait la Première Guerre mondiale ?
Non, il était parti, mais en 14 est né Jean-Marie, qui était le 6e enfant de la famille, et il est revenu à la maison. Ensuite, dans la résistance, mon frère Yves était un des premiers résistants de Saint-Pierre-d'Ayrault avec 2 hommes, Valade. Et ensuite, le lieutenant Colic, qui était un beau-frère à mon frère Yves. Le lieutenant Colic était militaire de carrière, il était fait prisonnier en 40, mais il a réussi à s'évader. Et dès qu'il est revenu à Saint-Pierre-d'Ayrault, il a pris la tête du groupe de résistance. Voilà. Et puis ensuite, mes frères François... Joseph, Jean-Marie ont participé aussi à des actions de résistance. Et même les filles, puisque dans la maison étaient camouflées en réfractaires au STO. Il fallait le nourrir et le loger.
Vous-même, je reviens un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous avez souvenir des événements des années 1930, l'arrivée du Front populaire, la montée du nazisme ?
Non. Le seul souvenir que j'ai, en 1930, j'avais 7 ans, donc j'ignore quand c'est que le Front populaire défilait dans les rues de Bergerac, mais je sais, en allant à l'école, je croisais des fois les mouvements de ceux qui faisaient grève et qui protestaient, quoi. Non.
Et le déclenchement de la guerre en septembre 1939, est-ce que vous en avez gardé un souvenir particulier ?
Mais oui, parce que j'ai 4 frères qui étaient partis faire la guerre. Et puis, de souvenirs particuliers, je n'en ai pas, quoi. Sauf en 40, quand les avions venaient se replier donc à Bergerac, ceux qui étaient sur le front se plaignaient de ne pas avoir assez d'avions. Et le terrain de Romagnières de Bergerac, qui était juste à ses débuts, était couvert d'avions. Ah oui, ça, c'est une image qui est restée, quoi.
Et la débâcle, la défaite de juin 1940, est-ce que ça vous a laissé un souvenir particulier? Vous étiez jeune.
Oui, comme je vous ai dit, nous avions la ferme du Grand Caudou qui est située avant le Grand Leclerc à la Cavaille. Et un jour, les soldats sont arrivés. Ils nous ont annoncé que les Allemands approchaient le Bergerac. Et ils se sont mis de garde là toute la nuit au bord de la Dordogne au cas où les Allemands tenteraient de traverser la Dordogne. Mais enfin, c'était un petit peu ridicule. Les soldats étaient là qui attendaient les Allemands et les Allemands... Non pas à traverser la Dordogne à cet endroit, ils se sont arrêtés, donc ça a été la fin de la guerre, et les Allemands se sont arrêtés à Montpont, et la mort de Montravel, qui sont... Alors, la ligne de démarcation était Montpont, Villefranche-de-Longchamp, et la mort de Montravel.
Et vos frères ont été mobilisés, eux?
Oui, c'est-à-dire, nous sommes 5 frères à avoir fait la guerre, mais dans certaines familles, ils étaient 1, 2 ou 3... Tout le monde a été fait prisonnier. Nous sommes 5 frères à avoir fait la guerre, pas de prisonniers. Non, on ne capitule pas dans la famille Cadalet.
Et est-ce que l'arrivée du maréchal Pétain également vous a laissé un souvenir particulier? Est-ce qu'on en discutait chez vous et vos frères qui revenaient?
Ah oui, tout le monde était déçu de cette fin de guerre. D'ailleurs, aussitôt après, quand il y avait les émissions de Radio de Londres, les Français parlent aux Français, tous les soirs on écoutait ces émissions. Mais on surveillait que dans le voisinage, il n'y a pas quelques voisins qui arrivent à l'heure, parce qu'il y avait des personnes qui surveillaient, qui espionnaient les familles. En ce qui me concerne, je suis rentré le 4 février dans la clandestinité. Il y a eu 2 réunions de famille par la suite chez moi, puisque je suis rentré dans la résistance le 4 février, juste après l'enterrement de ma maman. Et c'était l'habitude, 15 jours après, il y avait un service de quinzaine pour les morts. Et bien, quelqu'un savait qu'il y avait un service de quinzaine, puisque quand la famille était rassemblée pour aller à la messe, les 2 agents de ville sont arrivés pour voir si j'étais la famille. Et alors après, attends. Le deuxième réunion de famille eut lieu, faut pas que je me trompe, attends, le 5 mai 1944. C'était la communion d'une nièce à Saint-Pierre d'Ailleau, la première communion. Un repas de famille, les gendarmes encore arrivent.
Et avant 1944, qu'est-ce que vous avez fait entre 1940, entre la défaite et 1944? Vous avez eu connaissance de l'existence de groupes de résistance ou de gens qui s'organisaient?
Mais la première fois que j'ai entendu parler de la résistance, c'était en juillet 42. Mon frère de Saint-Pierre-d'Ayrault, Yves, était venu nous aider à rentrer les moissons. Et il nous a dit qu'avec ses camarades Valade et Dezon, ils avaient formé un groupe de résistance. Alors je lui ai dit à mon frère, j'en fais partie. Mais ensuite, quand il a fallu partir au chantier de jeunesse, le 7 juillet 43, je ne voulais pas partir, je voulais rester dans la clandestinité. Mon frère s'est renseigné auprès du commandant Pinson, et le commandant Pinson a dit qu'il valait mieux que je parte, parce qu'autrement, si j'entrais dans la clandestinité, j'aurais été recherché, et j'aurais risqué de créer des ennuis aux personnes qui m'auraient camouflé. Donc, je suis parti, mais il était bien convenu que, lorsque l'on aurait besoin de moi, on m'enfermerait. Voilà. Et c'est pour ça, un jour, donc je vous ai dit, j'étais venu à l'enterrement de ma maman, j'avais reçu un papier qu'un camarade était venu en permission, et il m'avait fait parvenir un papier que ma mère était gravement malade. Alors je pensais que ça, c'était le signal. Mais non, c'était vrai. C'était vrai. Mais après l'enterrement, donc, aussitôt, je suis rentré. Mon frère Yves, alors celui que j'étais en rapport avec lui concernant les problèmes de résistance, m'informait qu'ils avaient reçu 2 parachutages coup sur coup. Ils pensaient donc que le débarquement des Alliés approchait. Et mon frère m'a dit, tu fais comme tu veux. Ou tu repars au chantier de jeunesse, ou tu viens chez moi. Et le soir, j'étais chez mon frère. Mais j'étais chez mon frère pendant 15 jours. Puis ensuite, alors 15 jours dans la famille de Dezon, qui était sur, justement, à côté d'un terrain de parachutage. Mais la période que j'ai été chez Dezon, il n'y a pas eu de parachutage. Ils n'ont pas pu. Et puis ensuite, on a trouvé une maison qui acceptait de me prendre comme domestique agricole. Alors je suis parti sous le nom de Jacques Lestin, domestique agricole. Et là, j'étais très bien soigné, puis voilà.
Vous êtes resté combien de temps dans les chantiers de jeunesse ?
De juillet 43 au 2 février 44.
Et quel souvenir ça vous laisse, les chantiers de jeunesse ? Qu'est-ce que vous y avez fait ?
On a perdu notre temps. Oui, on coupait du bois pour faire du bois de chauffage. Et on était à Chomadou, dans le Puy-de-Dôme. La Dordogne passait, elle faisait 10 mètres de large. Donc il y en a qui lançaient du bois qu'ils avaient fait dans le courant. Nous, on était à 3 kilomètres plus loin. On attrapait ce bois qu'on le jetait. On a jeté sur la berge pour que les bœufs, après, aillent le chercher. Et si ça se trouve, le bois y est encore. Non, on a perdu notre temps, là, mais c'était comme ça.
Et vous aviez des nouvelles de votre famille pendant ce temps-là ?
Ah oui. Ah non, mais la correspondance marchait. Oui, on écrivait, on avait du courrier. Le courrier, on est venu en permission une fois depuis le Dôme, voilà.
Et à partir du moment où vous êtes passé dans la clandestinité, vous avez été recherché, j'imagine.
Eh bien oui, je vous l'ai dit, il y a eu deux réunions de famille et les deux fois, la police était présente. Il y avait quelqu'un qui espionnait les familles.
Et vous avez parlé de Pinson, est-ce que vous pouvez parler de cet homme ? Qui était-il ?
Pinson était un homme formidable, très tranquille. Donc il fut chef de la résistance du secteur ouest de Bergerac. Et j'avais rejoint donc son domicile le 6 juin, lorsque les Alliés ont débarqué. Mon chef m'a dit, avant tu vas aller comme agent de liaison et garde du corps du commandant Pinson au 100 PC. Alors le lendemain, le commandant Pinson m'a envoyé avec deux de mes camarades, Momon et Chaki Descamps, pour transporter les armes. Alors, les armes qu'ils avaient reçues dans les parachutages, parce qu'il y a eu 3 parachutages spécialement pour nous. Le premier, chez le commandant Pinson, le deuxième au bourg d'Abrun, et le troisième dans le pré de Sturm à Saint-Pierre-d'Aireau. Donc, ces armes étaient camouflées chez des paysans, ou même il y en avait camouflées chez Durand. Durand qui faisait des briques. Il y avait un four qui ne se servait jamais, il avait bourré d'explosifs. Et alors, d'autres armes étaient chez des paysans et aussi dans un séminaire à cavalerie, lieu-dit Paimilou, commune de Prieurzieux. Alors, nous sommes allés les chercher, là, et je revois encore le curé qui était responsable de ces cachettes. Il était sur le toit d'un bâtiment. Les séminaristes qui avaient caché les armes dans le grenier à foin les faisaient passer. Le curé me les faisait passer. Moi, je descendais l'échelle, je les donnais à mes deux camarades qui étaient en bas. Et puis ensuite, nous sommes allés les distribuer pour les différents groupes de résistance qui devaient se soulever dans la soirée. Alors, la camionnette, c'était celle du bourg d'Abrun de Saint-Pierre-d'Aireau. Elle était pilotée par Momon. Et moi, j'étais en arrière de la camionnette d'un côté, de la camionnette sur un banc. De l'autre côté, c'était un camarade Jacky Descamps. On avait chacun notre mitraillette. Et le chauffeur Momon nous avait dit, si des fois il y a des Allemands qui vont nous arrêter, je ralentis, et quand j'arrive à leur hauteur, je les marrerai, puis vous n'aurez qu'à les arroser. Mais la journée s'était très bien passée, dans le calme. On s'était promené.
Pinson, c'est le commandant Pinson, c'était un militaire de carrière ?
Il avait fait la guerre de 39-40 comme sergent. D'accord. Sergent, oui.
Vous avez souvenir de son régiment d'affectation ?
Non. Non, aucun. D'ailleurs, ce renseignement, comme Pinson a été tué le 9 juillet à Beaumont-du-Périgord, c'est ensuite Maigre qui était chef de la résistance de Cunège sous le nom d'Annick qui m'a mis au courant qu'il avait connu Pinson qui était sergent pendant la guerre de 40. Et comme Loupias cherchait quelqu'un dans le secteur de Prieurzieux, c'est Maigre qui a envoyé Loupias pour que Loupias prenne contact avec Pinson.
Et vous êtes rentré, vous, si j'ai bien compris, dans la résistance, sous l'impulsion de votre frère. C'est
oui.
Votre frère. Il appartenait à quel groupe de résistance ?
Mon frère Yves était un des fondateurs de Corfant Louis, groupe de résistance de Saint-Pierre-d'Aireau, avec Louis Dezon et Valade, Lucien.
C'était un groupe de l'armée secrète ?
Oui, AS. D'accord.
Et après le 6 juin, lorsque vous avez fait ce déplacement en Darmes, que s'est-il passé pour vous?
Le soir même du 6 juin, on est parti avec le commandant Pinson pour installer le PC dans un château de La Force. Grand Durbecq ou Petit Durbecq, je me souviens pas bien. Et quand nous sommes arrivés à la maison, là, en pleine nuit, le propriétaire de la maison a dit à Pinson qu'il ne voulait pas qu'on entre dans sa maison, qu'il allait avertir la police. Mais le commandant Pinson lui a dit « c'est pas la peine d'avertir la police, nous on l'a déjà averti ». Donc on a installé notre PC dans ce château, et le lendemain, il y a des résistants de la Motte Montravel qui sont arrivés avec un Allemand. Les résistants de la Motte Montravel se promenaient dans leur secteur, ils ont aperçu 3 soldats allemands qui s'étaient arrêtés pour manger des fruits. Aussitôt, donc, ils sont lancés à leur poursuite. Les Allemands ont voulu traverser la Dordogne à la nage. Ils ont pu en abattre un. Et un autre, ils l'ont fait prisonnier. Le troisième, j'ignore ce qu'il est devenu. Alors, cet Allemand qu'ils avaient fait prisonnier, ils nous l'ont amené à notre PC pour que nous, on le garde. Ah.
Et au niveau des armes que vous aviez reçues par ces parachutages, était-elle un nombre suffisant pour équiper tous les groupes de la résistance en Dordogne Sud?
Ah non, parce que quand on s'est soulevé, beaucoup de jeunes qui avaient aucun contact avec la résistance sont arrivés, mais il n'y avait pas assez de... Oui, je me souviens même, Morisset avait écrit un article, le journal bien longtemps après, quoi, et il disait que c'était malheureux, quoi, les résistants arrivaient, mais il n'y avait pas assez d'armes pour... maintenant, bon, on avait assez d'armes, comme si vous voulez, pour faire la mission qui nous avait été confiée. La mission qui nous avait été confiée, ce n'était pas de libérer les villes. Certains même se sont moqués de nous parce qu'on a attendu que les Allemands soient partis pour libérer les villes. Ils ont dit les résistants sont rentrés les mains dans les poches. Mais notre mission principale, c'était d'empêcher les Allemands de circuler sur nos routes. Et alors, il était très facile d'empêcher les Allemands d'utiliser les trains. Il n'y avait qu'à saboter les voies ferrées sur quelques mètres. Mais pour les empêcher de circuler sur les routes, il fallait faire des barrages. Et les barrages, c'était des arbres qu'on coupait, des mines qu'on passait parmi les branches ou les troncs. Et chaque barrage était protégé par un groupe de résistants. Ce groupe de résistants, alors, comprenait un fusil mitrailleur, quelques hommes pour servir, mais les Allemands l'encerclaient. Bon. C'est-à-dire que le groupe de résistance, bien souvent, était repéré par un avion qui était basé à Roumanière, qu'on en appelait le Coucou, et qui tournait au-dessus du groupe de résistance. C'est ainsi qu'à Prigonrieux, un avion était arrivé et avait repéré le groupe de résistance, d'abord qu'il se trouvait au pont de Pissiot. Il y avait 5 résistants qui défendaient ce poste, ce barrage. Et parmi les résistants qui défendaient le barrage, se trouvait un copain, Venancy. Et Venancy a compris ce qui allait se passer. L'avion tournait autour. Donc il est parti, il a dit aux autres, il vaut mieux s'en aller. Mais les autres sont restés, ils ont été pris par les Allemands, c'est tout, et fusillés. Alors, Venancy était au barrage de résistants qui était à la barrière à Prigonrieux, les avertir de ce qui venait de se passer. Et lui, il est parti, mais alors les Allemands sont arrivés à la barrière à Prigonrieux. Ils ont encerclé le groupe de résistance et ils ont tué, enfin, la plupart des résistants se sont rendus, mais quand ils étaient prisonniers, ils ont été fusillés. Oui, alors, quand il y avait un groupe de résistance à un endroit, ce groupe de résistance était repéré par l'avion que l'on avait baptisé le Coucou, mais nous avions des ordres de nos chefs de résistance de ne pas tirer sur l'avion, pour ne pas se faire repérer. Mais il était clair que si l'avion tournait au-dessus de nous, c'est que nous avions été repérés, donc il aurait peut-être bien valu lui tirer dessus. Mais on avait des ordres de ne pas tirer, on ne tirait pas. Voilà. Bon.
Et... La situation en Bergerac, est-ce qu'il y avait une tension avec les soldats allemands installés à Bergerac?
Attends, je vous ai dit que je suis parti au chantier de jeunesse le 3 juillet et on était à la campagne et les gens de la campagne fréquentaient très peu les villes. Nous, pour aller en ville depuis où j'étais, il fallait traverser le pont et c'était très rare si on traversait le pont. Donc la tension, non, je n'en ai pas.
Mais j'imagine qu'après le 6 juin, là, les choses ont dû radicalement changer.
Non, maintenant, après le 6 juin, j'étais agent de liaison au PC du secteur ouest de Bergerac. Je me promenais dans le canton de la Force. Sauf ensuite, on s'est replié. Nous avons reçu des ordres de se replier le 19 juin. Le 19 juin, il fallait se replier vers le Saladé. Et alors, vers le Saladé, nous étions à Meyral, Marquet, Saint-Romain-de-Montpazier. Et un jour, là, le Pinson m'a envoyé en mission à Saint-Père-d'Airaut, depuis Saint-Romain-de-Montpazier. Donc, là, mais là, j'avais croisé les Allemands qui étaient en camion. Je leur ai rien dit, eux non plus.
Donc, vous étiez agent de liaison. En quoi ça consistait? Vous pouvez décrire votre travail?
Ah, mais mon travail était très simple, puisque le commandant Pinson, qui commandait le secteur ouest de Bergerac, changeait tous les jours de place. Et donc, je devais aller informer mon groupe de résistance d'origine, qui était le corps Franc-Louis, où se trouvait le chef de bataillon.
Et vous faisiez comment? À vélo?
À bicyclette. Et alors, tant que j'étais dans le canton de la Force, j'étais armé, j'avais un fusil anglais, masse. Mais ensuite, quand il m'a envoyé en mission depuis Saint-Romain-de-Montpazier à Saint-la-Force, Saint-Pierre-d'Airaut, Le Flé, Prigonrieux, là, j'avais pas d'armes. Hein? Il me dit, si tu es arrêté par les Allemands, débrouille-toi. Et j'avais un camarade, alors, du corps Franc-Louis, qui était agent de liaison comme moi, Volturi. Lui, il a été arrêté par les Allemands, alors ils l'ont tué.
Ah oui. Et vous n'avez jamais eu un problème avec les patrouilles allemandes?
Non, 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 rien. Rien, ni même pendant la guerre, tu vois. Pendant la guerre, peut-être qu'on y reviendra après.
Comme vous voulez.
Non, pendant la guerre, plusieurs fois j'ai entendu les balles siffler. Une fois même, on était en Allemagne, alors on était parti de Legenweier le matin, il fallait attendre Mugersturm. Et un peu avant Mugersturm, il y avait un champ de mine à traverser. J'ai un copain qui a fait sauter une mine, il a été tué. Moi, je l'ai fait sauter une, j'ai rien eu, tu vois. Alors, c'était...
D'accord. Et est-ce que vous avez eu connaissance à cette époque-là, j'imagine que oui, des événements de Mouledier, de ce qui s'était passé à Mouledier?
Non, on a vécu dans l'ignorance totale. Ah non. Non, mais c'est qu'à l'époque, bon, on n'avait pas de téléphone portable. Allez. Et puis peut-être les chefs ne voulaient pas nous mettre au courant des atrocités commises par les Allemands, je ne sais pas, non, mais on était au courant de rien.
D'accord. Vous étiez dans le secteur de la Force, c'est bien ça, à ce moment-là?
Oui. Attends. Non, j'étais dans le canton de la Force jusqu'au 19 juin. Le 19 juin, on a reçu ordre de décrocher. Donc, on est parti par l'Urac. On a dormi là dans les fougères. Et le 21, on est arrivé à Sainte-Colombe. On était à un château. Et là, on a vu de la fumée en quelque part. Alors, le commandant Pinson a dit à un des hommes du groupe, le lieutenant Bousquet, qui était le frère Bousquet de Morny. Donc, c'était son frère qui était avec nous, comme lieutenant d'artillerie. Et Pinson lui a dit, faites le point, cherchez à savoir où ça fume. Et alors, je revois le lieutenant Bousquet faire le point, et tout d'un coup, il est arrivé, il dit, Mouledier brûle. Ouais. Alors, on les débrûle. Mais alors, à ce moment-là, le commandant Pinson a été informé que les Allemands venaient vers nous. Donc, il nous a envoyé sur la route, depuis Sainte-Colombe, prendre la route pour aller vers l'Allaine. Il nous a dit, si vous voyez les Allemands arriver, vous reculez dans le bois, vous leur lancez des grenades, que riposte, que ça fasse du bruit pour que nous, on se sauve. Mais on a été sur la route de l'Allaine et on n'a pas vu d'Allemands. Parce que les Allemands avaient pris l'autre route pour aller sur Précignac. Voilà. Et quand Précignac brûlait, alors nous, on est partis un peu n'importe où, par Grand Castan. Alors, on roulait à des carrefours. Il y avait des résistants qui nous arrêtaient. Ils nous disaient, n'allez pas vers là, il y a les Allemands. On prenait leur route, n'allez pas vers là. Puis voilà. Et puis finalement, ben, on a pu se sauver, quoi. Ça a trouvé d'Allemands sur notre route.
Et après, qu'est-ce que vous avez pu faire?
Après, on cherchait plutôt à vivre, quoi, nous. À nous, oui, puisqu'on avait un groupe de résistance, et le groupe colique de Saint-Pierre-d'Airaut, mon groupe d'origine, s'était replié vers là aussi, mais eux, ils voyaient que c'était invivable dans ce secteur. Ils se sont demandé d'ailleurs pourquoi on les avait envoyés à cet endroit, parce qu'il y avait moyen de vivre, de former un maquis à Saint-Pierre-d'Airaut. Donc, ils sont revenus à pied d'où ils étaient partis. Ils ont formé un maquis à Saint-Pierre-d'Aillerot, dans le dit Café Rouge, c'est tout bois, et ils vivaient là. C'est-à-dire, parmi les résistants, il y en a qui n'étaient pas dans la clandestinité, qui pouvaient revenir chez eux, ils sont revenus chez eux, mais les autres résistants, qui étaient les clandestins, sont restés là dans ce bois. Et c'est là, d'ailleurs, quand je suis venu en reconnaissance depuis Saint-Romain de Montpazier, c'est là que j'ai trouvé le maquis. Voilà.
Et il y avait des problèmes de ravitaillement ou il n'y avait pas tout ça?
Les problèmes de ravitaillement se réglaient toujours très très bien, puisqu'ils réquisitionnaient ce qu'il fallait dans les boucheries, dans le boulanger. Les paysans fournissaient le blé, le boulanger faisait le pain, et Mlle Deson, tous les jours, portait le pain de chez le boulanger au maquis. Voilà. Et Mlle Deson, un jour, elle était toute seule chez elle. Les Allemands sont arrivés pour fouiller la maison. Maquis, maquis. Ah non, elle a dit, moi, je connais pas de maquis. Puis voilà. Ils ont fouillé. Elle-même, elle leur ouvrait les portes pour qu'ils puissent entrer plus facilement dans la maison. Et enfin, les Allemands n'ont pas insisté, qu'ils n'ont rien trouvé.
Et est-ce que vous avez participé à la libération de Bergerac?
Non, mais la libération de Bergerac, ça a été très simple. Puisque les Allemands sont partis dans la journée du 20, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont partis, et nous, on est rentrés tranquilles dans Bergerac. Donc, nous, on nous a installés au collège Maine de Biran. Et nous avons rencontré là, le groupe bataillon Joseph, qui était commandé par le capitaine Joseph Centraille. Et aussitôt, nous avons fusionné avec eux. Mais nous ne sommes pas restés à Bergerac. Alors, à Bergerac, nous, on est partis. Et sont arrivés les faux résistants, ceux qui tendaient les femmes. Et nous, on est partis alors se positionner entre le Flé et Port-Sainte-Foy. Il y avait une maison d'un docteur qui avait une terrasse qui dominait la route. Alors on est resté là en position au cas où les Allemands auraient voulu retourner sur Bergerac. Mais alors là, il y a beaucoup de résistants qui filaient sur Bordeaux par le bord de la Dordogne. Nous, on a demandé de rejoindre la Garonne par Targon-Langoiran. Et nous avons remonté la Garonne jusque Bordeaux. C'est-à-dire, le 27 août au soir, des Bordelais quittaient Bordeaux et ils nous ont annoncé que les Allemands étaient en train de quitter Bordeaux. Alors aussitôt, on a pris nos camionnettes, on est parti sur Bordeaux, on n'a pas trouvé d'Allemands, on s'est installé place Tartas. Et les Bordelais, le lendemain, ils furent tellement surpris en ouvrant leur contrevent de nous voir sur la place Tartas qu'ils refermèrent vite leur contrevent parce que la veille, ils avaient vu les Allemands. Et le matin du 28, ils nous voient à nous. Mais alors là, l'accueil des Bordelais a été formidable. Ah oui, tous ils avaient le meilleur, ils nous le portaient, quoi. Ils nous le portaient. Et puis alors, dans l'après-midi du 28 août, les résistants bordelais nous demandaient d'aller en renfort aux allées de Tourny, les miliciens leur tiraient dessus. Alors nous y sommes allés, comme je le disais tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose de vraiment triste. Nous, qu'on se battait pour libérer la France, c'était les miliciens qui nous tiraient dessus. Et nous avons d'ailleurs eu un tué, là. Un adjudant Prudhomme. Mais dès le lendemain, nous sommes repartis à la poursuite des Allemands et nous sommes allés jusque Talmont, en Charente-Maritime. Et les Allemands, alors, étaient repliés à Royan, La Rochelle, la Pointe-Grave. Au total, 27 000 Allemands que le haut commandement interallié nous avait demandé d'empêcher de rejoindre la Normandie. Nous participions ainsi à la réussite du débarquement allié en Normandie.
Tout à l'heure, vous avez indiqué que lorsque vous avez quitté Bergerac, des résistants sont rentrés dans la ville et c'est eux qui ont tendu les femmes. C'est bien cela?
Oui.
Vous avez assisté à cela ou vous étiez parti?
On était parti. Non, moi personnellement, je n'ai pas tendu une femme, je n'en ai pas vu une seule de tendue. Parce que ceux qui tendaient les femmes, c'est ce qui est arrivé après nous. D'ailleurs, bon, ce qui s'est passé à Bergerac, c'est passé à Bordeaux. Puisque nous, les Bordelais, avaient une très bonne considération pour nous. Mais dès le 29 août, nous avons quitté Bordeaux pour poursuivre les Allemands jusqu'à les portes de l'Atlantique. Mais quand le général de Gaulle est venu à Bordeaux le 17 septembre, pour dire aux résistants bordelais qu'après avoir été le chef de la France libre, il fallait le considérer comme le chef de la France libérée, et bien à ce moment-là, alors, les bordelais n'avaient pas tellement confiance aux résistants qui nous avaient succédé dans Bordeaux, Et c'est pour cela qu'ils nous ont rappelés pour assurer la protection rapprochée du général de Gaulle.
Donc vous avez vous-même assuré sa protection?
Ah oui. Et même on a défilé devant lui, c'est-à-dire, tout était calme. Mais on était, je ne me rappelle plus, on était stationnés, nous peut-être à 1 kilomètre de l'endroit où le général de Gaulle était. Et à un moment, on nous a dit, venez, on a besoin de vous. Et mon commandant de compagnie m'a dit, eh bien, il faut y aller, sans doute ça va barder. Et on y va, non, au contraire, tout était calme. Tout était calme, alors on a dit, bon, restez là. Puis tout d'un coup, on nous dit, mais vous allez défiler devant de Gaulle. Non, mais c'est amusant, quoi, ça. Alors là, on a défilé devant de Gaulle. Et moi, j'étais chef du premier groupe de ma compagnie. Donc, j'étais le premier à droite. Et pendant quelques secondes, je croisais le regard du général de Gaulle. Eh oui. On était des gaullistes, là, tu vois.
C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.